vas-y, vas-y.
We will start in 1 minute, okay?
Nous allons commencer dans une minute exactement.
Yanım şu benim telefonla da bir ara çekiver.
Evet, değerli meslektaşlarım.
Chers collègues. Lors de la première partie de la matinée, nous avons commencé à débattre des amendements proposés pour les 10 premiers paragraphes. Nous passons maintenant au paragraphe 11 et à l'amendement 30 ainsi qu'à l'amendement 31 et amendement 32 et 33. Amendement 34 également. Donc les amendements de 30 à 34 proposés au sujet du paragraphe 11. Je vais vous donner la parole dans un instant. Paloma Bermejo va nous présenter sa proposition, ainsi que M. Hortefeu.
Dont l'objectif est de rappeler les fondements du développement économique et de la nécessaire intensification des échanges, c'est-à-dire les fondements, c'est à la fois la stabilité politique et la stabilité juridique et institutionnelle. En même temps, cet amendement souhaite rappeler que le mécanisme euro-méditerranéen de développement des échanges et de facilitation des échanges, qui avait été décidé en 2010, doit être mis en place. Donc, je vous rappelle, ce mécanisme, il visait à centraliser les informations afin de faciliter l'activité des opérateurs économiques et des administrations dans la région euro-méditerranéenne. Donc voilà les deux objectifs. Hein, c'est on rappelle les fondements du développement économique et de l'intensification des échanges. Et deux, on souhaite que ce qui avait été décidé en 2010 puisse être mis en place. Voilà.
Teşekkür ederim. Sayın
sur l'aspect des droits de l'homme également. Le respect des droits de l'homme est également très important dans ce processus. Merci.
Teşekkürler. Evet, paragraf 11.
Madame Begin. Je propose également un certain nombre de modifications, en particulier en ce qui concerne les PME. Je souhaitais rappeler que de nombreux problèmes concernant les PME existent dans ce domaine. Souvent, les PME ont un problème de facturation. En fait, elles passent des fausses factures. Et je crois que nous devrions nous concentrer sur ce problème des PME. De manière générale, ma recommandation a trait aux réseaux locaux de PME.
Teşekkür ederim Sayın Begin.
Merci. Encore une fois, l'interprète est désolée, elle n'entend rien. Ah, voilà. Il est donc important de souligner le fait que les PME sont essentielles à la vie économique. Je souhaiterais entendre votre avis sur cet amendement.
Un amendement qui a son importance parce que les petites et moyennes entreprises jouent un rôle très important, particulièrement dans les rangs des jeunes et des femmes. Je propose d'y ajouter la formation. Il faut ajouter la formation quelque part parce que couvrant de multiples domaines, protection, financement, information, je mettrai la formation parce que nous avons toujours discuté, Monsieur le Président, la formation et la formation continue qui ont un rôle très important dans la pérennité des actions des petites et moyennes entreprises. Merci.
Sayın Begin.
Je vous remercie, Madame Begin. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette proposition formulée par notre collègue marocaine. Et sur la nécessité de mettre en place des formations afin de promouvoir l'esprit d'entreprise. Je vous remercie. Ça entend notre collègue belge.
Nous avons beaucoup de témoignages de petites et moyennes entreprises, bon, belges en l'occurrence, qui rencontrent parfois un certain nombre de blocages de nature administratif ou juridique, ne sachant trop à quel sein se vouer. Et de fait, il est très important de pouvoir leur proposer un environnement juridique sécurisé, des voies de recours et des référents pour débloquer parfois des situations dont elles ne connaissent pas les causes ou dont elles ne comprennent pas les causes. Néanmoins, il me semble que l'amendement Hortefeux est plus complet à sa base. C'est la raison pour laquelle nous pourrions peut-être rajouter à l'amendement Hortefeux un passage disant qu'il importe d'accorder une attention toute particulière aux PME et puis ensuite de développer le libellé tel que proposé par Madame Begin avec les ajouts de la délégation marocaine relative à la formation. Mais il me semble utile de peut-être éviter de partir de l'amendement Begin, parce que l'amendement Begin, lui, semble ne s'axer que sur les PME. Je pense que ça n'est pas l'objectif. L'objectif est d'avoir une vision globale, et puis alors une attention particulière pour les PME, donc de rajouter, de créer une charnière entre l'amendement Hortefeux et l'amendement Begin, tel que reformulé par la délégation marocaine. On peut les... Voilà.
Evet. Sayın Begin de.
Oui, Madame Begin est d'accord. Nous pouvons donc adopter la proposition de M. Hortefeux et nous y ajouterons l'amendement dont le texte est préparé par le secrétariat. Nous inclurons les propositions de M. Hortefeux, de Mme Bekin, ainsi que les suggestions des autres collègues. Je pense que ça a une grande importance. Ceci nous permet de conclure sur le paragraphe 11. Si tout le monde en est d'accord, eh bien, nous en avons terminé avec le paragraphe 11. Nous allons maintenant aborder le paragraphe 12, amendement numéro 35.
La phrase est très, très globalement ici. Et je vous propose ça, d'interrompre, de dire la mise en œuvre des mécanismes de règlement des différents en cas de conflit d'intérêt de pointe. Et après ça, l'adhésion aux organisations régionales peut assurer l'intégration régionale comme ça. Donc, point A, après cas des conflits d'intérêt, et après ça, une phrase nouvelle, l'adhésion aux organisations régionales permet à assurer l'intégration régionale. C'est plus facile de lire. Merci.
D'accord, j'aimerais remercier mon collègue de Roumanie. Au lieu d'avoir des phrases aussi longues, il serait en effet préférable d'avoir des phrases plus courtes. Nous allons donc prendre les mesures nécessaires pour le faire. Alors maintenant, nous avons les amendements 35-36, deux propositions d'amendement. Tout d'abord, la première de M. Hortefeux qui propose un amendement ainsi que Paloma López Bermejo. M. Hortefeux, s'il vous plaît.
Dans le fourmilier. Je tiens à appuyer l'amendement de M. le ministre, mais j'essaie d'être un peu moins langue de bois. Écoutez, quand on introduit ce genre de choses, il ne faut pas se leurrer. On introduit des instruments qui peuvent être trop aisément utilisés pour un néoprotectionnisme. Alors, comme ce n'est pas nécessaire, moi je n'essaierai pas cela, parce que très souvent, ce que ça fait partie de tout ce qu'on appelle les intangibles du protectionnisme qui peuvent être mal utilisés. Pour cette raison aussi, j'appuie l'idée de monsieur le ministre.
Donc, proposez-vous de supprimer cette phrase? Je soutiens l'amendement proposé par M. Hortefeux. Madame Begin? Eh bien, En fait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela parce que même l'OMS n'arrive pas à toujours réglementer certaines situations. Donc, lorsque nous parlons des droits des travailleurs ainsi que des aspects environnementaux, je crois que ces aspects doivent être soulignés. Voilà, en tout cas, du moins mon opinion.
Sur le fait de supprimer cet amendement. Effectivement, le fait de prendre en considération le droit de travail des pays d'accueil est un élément extrêmement important, et aussi le fait de prendre en considération la protection de l'environnement. Aujourd'hui, on parle énormément de l'environnement dans l'investissement. Il faut, je crois qu'il faut véritablement le souligner.
Merci. Collègue belge.
Marocaine, le libellé de la recommandation est relativement souple. C'est « devrait », question du conditionnel, donc autrement dit, c'est un souhait de voir être pris en considération un certain nombre d'éléments relatifs au droit du travail. Et au sein même de l'Union européenne, aujourd'hui, un très grand débat sur le dumping social et un renforcement de la directive sur le détachement des travailleurs. Donc c'est vraiment d'actualité au sein même de l'Union européenne. La question de l'environnement, on sait que c'est un problème mondial et on sait qu'on doit de toute façon prendre un certain nombre de décisions qui devront à un moment donné être assumées. Donc ici, en l'occurrence, c'est un souhait qui est exprimé, il n'y a rien de contraignant. Ça donne une indication qu'il y a la volonté de prendre en considération néanmoins un certain nombre de paramètres, ce que les économistes appellent les externalités négatives comme l'environnement ou bien évidemment des choses plus fondamentales encore qui tiennent compte du niveau de protection des travailleurs, et on sait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je pense que c'est une indication qui est donnée, donc le message est plutôt positif. Maintenant, soyons cohérents à nouveau, nous avons admis un amendement où on supprimait le mot investissement direct, on supprime le mot direct pour garder le mot investissement, donc là il faut être cohérent. Donc moi je pense que de fait on doit peut-être retirer le mot direct. Mais pour le reste, la recommandation me semble tout à fait bonne.
Merci. Si j'ai bien compris, il y a une demande de maintien de l'amendement.
C'est que, quels que soient nos pays, nous avons tous le réflexe parlementaire de rarement alléger et de beaucoup alourdir. Ça, au moins, c'est sûr que c'est transnational de ce côté-là, donc je ne proposerai plus d'amendement de suppression. Ben, voilà.
J'ai entendu mes honorables collègues marocains, qui sont après tout les pays récepteurs de ce genre d'investissement, qui eux souhaitent, peut-être en représentation d'autres pays plus récepteurs, qui eux souhaitent maintenir, sans doute pour mieux travailler dans leur pays également, pour les travailleurs et pour l'environnement. Alors là, moi aussi, je reste neutre, c'est-à-dire, comme M. Hortefeux, parce que si eux ne voient pas que ça peut être mal utilisé, ben je respecte absolument les bons propos.
Alors, notre collègue marocain.
Et je lui demanderai humblement et gentiment de revenir sur sa décision ferme, parce que nous sommes en train d'essayer de légiférer pour le mieux qu'on puisse faire. Donc je pense trop serré, ça va créer d'autres, à la recherche d'autres issues. Alors je rejoins l'idée de supprimer l'investissement direct, mais pour qu'on puisse parler de questions sensibles, moi je préfère parler des questions spécifiques à chaque pays. Et comme il y a deux connotations très importantes, le droit des travailleurs qui est primordial et qui va dans le droit à la vie décente, le droit à l'éducation, à tout ce qui s'ensuit du travail, et surtout la dimension environnement qui est primordiale. Et aussi pour aller mettre l'équilibre entre l'investisseur et le pays d'accueil dans le style gagnant-gagnant. Il ne faut pas que l'investisseur soit en position de force, s'imposer comme il veut. Donc il faut respecter les spécificités des pays et promouvoir le travail, parce que c'est très important. Vous savez très bien que le monde maintenant se trouve face à un fléau ingérable et insoluble qui est le chômage dans les rangs des jeunes et des femmes. Merci.
Teşekkür ediyorum değerli meslektaşım. Şimdi
Merci. Merci, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis contente d'être ici à nouveau et j'aimerais souligner ce qui a été mentionné auparavant concernant le fait que cet article est effectivement très important. Et si nous ne nous engageons pas au fait que l'investissement direct étranger est important et doit être inclus, nous, en Jordanie, nous avons besoin de nouveaux investissements parce que nous souffrons du chômage. Il y a un très fort taux de chômage en Jordanie. Donc, nous aimerions être en mesure de bénéficier davantage d'investissements directs étrangers. J'aimerais donc souligner l'importance de cela, du fait que, en fait, il serait important de maintenir cet article. Merci. Merci. De façon générale, lorsque nous examinons les différents besoins des pays du Sud, on constate qu'il y a une demande générale de maintien de cet article, de ce paragraphe. Nous pouvons donc le maintenir donc le paragraphe 12. C'est donc adopté. Merci. Regardons donc maintenant le paragraphe 13, amendement 37, amendement 38, amendement 39, 40, 41 et 42. Je crois que c'était peut-être le plus important. J'ai examiné toutes les propositions et en fait, il ne semble pas y avoir de conflit entre ceux-ci. Donc, je ne vois pas de problème quant aux amendements, mais j'aimerais tout de même donner la parole à M. Hortefeux.
Oui, c'est une reformulation parce que le paragraphe est très lourd. Hein, donc, on reconnaît que le tourisme est un secteur essentiel parce que ça contribue au développement économique, social de nombreux pays. Deuxièmement, on souligne qu'il y a des gains directs et indirects en matière de création d'emplois, notamment pour les jeunes et pour les femmes, ce qu'on évoquait tout à l'heure, que ça permet la réduction de la pauvreté. En même temps, ça permet aussi de réaffirmer nos identités parce que le tourisme encourage la reconnaissance et des identités. Donc c'est pour ça que je pense que l'idée est bonne, mais sans doute la formulation était un peu trop lourde. Donc une formulation un peu plus courte.
Merci beaucoup, Monsieur Hortefeux. Paragraphe 13, donc. Merci, Monsieur le Président. En ce qui concerne la simplification, je suis tout à fait d'accord, mais je ne crois pas qu'il serait positif d'éliminer certains détails concernant, par exemple, protection de l'environnement et des écosystèmes. Par exemple, en ce qui concerne les environnements maritimes, le tourisme est évidemment un choix de développement économique, mais peut également entrer en conflit avec certains principes environnementaux ou écologiques. Je pense donc que le tourisme est très important, encore une fois, mais on doit défendre le tourisme en tant que choix politique, tout en maintenant la préservation de l'environnement. Donc, je n'enlèverai pas cette phrase concernant la protection des écosystèmes marins ou de l'environnement. Merci. 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 J'aimerais ajouter un commentaire. Je crois que cette phrase est effectivement très longue et gagnerait à être simplifiée. Ce serait peut-être plus simple à comprendre et plus facile à lire. Nous espérons être en mesure de travailler sur les aspects culturels et essayer de se débarrasser des certains stigmatismes culturels. Je crois que cela pourrait être un article utile. Et je suis d'accord pour dire que le tourisme est positif et que le fait de travailler pour les femmes et pour les jeunes est important. Je crois que le développement local a tout à y gagner. Donc, je crois que parler du tourisme est très important. Merci. C'est effectivement un paragraphe assez long et la proposition de M. Hortefeux de l'alléger et de le raccourcir est donc acceptée. Et nous allons maintenir la proposition également de la Jordanie. Avez-vous d'autres commentaires concernant le paragraphe 13? Merci. Monsieur le Président, nous avons parlé des femmes, des jeunes dans le domaine du tourisme. Nous avons parlé des PME également et j'aimerais ajouter un point. Il s'agit de l'importance de trouver une solution concernant les fonds pour soutenir les PME, les aspects financiers nécessaires afin de trouver des solutions ou en tout cas être en mesure d'aider, de soutenir les PME, soit à travers des institutions financières, que ce soit au niveau régional ou international. Il s'agit d'un cadre très important. Je crois que le cadre juridique est très important, que les PME doivent bénéficier d'un cadre juridique et on doit encourager les investissements. Ceci est important pour notamment réduire le nombre de migrants. Merci. Merci pour votre commentaire. Alors, maintenant, on va passer au prochain paragraphe. Nous allons donc adopter votre proposition d'amendement. Le secrétariat se chargera d'apporter les modifications nécessaires. On va même maintenant passer au paragraphe 13 qui sera donc amendé. Êtes-vous d'accord? Y a-t-il quelqu'un contre? Non? Donc, les amendements apportés au paragraphe 13 sont acceptés. Ce paragraphe sera donc simplifié afin de tenir compte des propositions de M. Hortefeux. Et nous allons également tenir compte des propositions de nos collègues de la Jordanie. Et y a-t-il d'autres commentaires concernant ce paragraphe? Oui, merci beaucoup, M. le Président. Je suis désolée, je pense que nous allons devoir reculer et retourner au paragraphe 13 parce que c'est un paragraphe effectivement très long, mais on ne peut pas effacer des aspects importants figurant dans ce paragraphe. Cela, en fait, le viderait de son sens. Je pense donc que il faudrait même ajouter une référence à l'agriculture. Il y a évidemment cet aspect d'agriculture qui est très important dans plusieurs pays de l'Union européenne ainsi que les pays du Mashrek. L'industrie agricole est très importante et il faut mettre en œuvre des politiques qui les soutiennent. Sinon, nous allons créer, nous allons vider en fait le paragraphe de son sens.
Je vous remercie. Tout à fait. Cependant, lors des réunions précédentes, nous avons discuté du thème de l'agriculture et d'autres secteurs économiques en détail. C'est un paragraphe assez long, effectivement. Et l'idée était de le rendre plus concis. Je souhaiterais redonner la parole à M. Hortefeux à ce sujet. Est-ce que vous seriez d'accord pour conserver le paragraphe en l'état ou souhaitez-vous vraiment le réduire? Quelle est votre décision finale?
Non, mais s'il y a... Enfin, c'est une deuxième tentation. Encore une fois, supprimer, c'est compliqué. Alléger, c'est encore plus compliqué que supprimer. Donc peut-être, pour que ça soit plus clair, je retiens la suggestion de notre collègue. Et peut-être, dans ces cas-là, il faut diviser le paragraphe en deux. C'est-à-dire qu'on n'aboutit pas à une simplification, mais on aboutit à une clarification. Voilà. Donc on ferait en deux le même paragraphe, mais en deux parties, en reprenant votre idée. Voilà. C'est une coproduction franco-marocaine, je tiens à le préciser.
Oui. Et Monsieur le Président,
pas la première.
Ça sera pas la dernière. Si vous voulez bien, Monsieur le Président, il y a une dimension qui...
Madame
il y a une dimension qui n'est pas très, très mise en valeur, c'est la diversité culturelle. La diversité culturelle, je pense que c'est l'animateur et le moteur du tourisme. Et je suis d'accord avec notre collègue qui insiste sur, de l'Italie, qui insiste sur l'agriculture, parce que le tourisme vient chercher la diversité culturelle, la gastronomie et par conséquent tout ce qui est relatif à la production de l'agriculture, le bio maintenant qui émerge et tout ça. Donc moi j'insiste sur la diversité culturelle parce qu'elle est très importante dans la dimension tourisme. Si vous voulez bien, Monsieur Fabius.
Sindiali.
Sì, Presidente, non ho compreso se il mio richiamo all'esigenza.
Effectivement, je parlais de l'importance de souligner la conservation des écosystèmes, en particulier marins. Le tourisme a souvent pour source la mer, les océans. Il ne faut donc pas sous-estimer l'importance de la préservation des écosystèmes marins. Le tourisme est fortement lié à cela. Je vous remercie. Nous allons donc garder ce texte en l'état au lieu de le simplifier. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de rédiger deux paragraphes distincts ou un paragraphe en deux parties. Je propose plutôt que l'on conserve le texte en l'état, de manière à pouvoir tenir compte des opinions de tous. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je souhaiterais également aborder une idée dont nous avons parlé auparavant, à Barcelone en particulier, et ajouter au sujet du paragraphe 13, au sujet des sites culturels et historiques, une mention des aspects culturels physiques et non physiques. Mais je voudrais rajouter quelque chose sur les industries traditionnelles qui, en fait, offrent un grand nombre d'emplois. Des millions de travailleurs sont employés par ce secteur. Et donc, en fait, l'aspect culturel a un impact financier, également non financier. Et je pense qu'il faudrait rajouter ce point-là. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. Je pense qu'il faut conserver le texte sur les aspects financiers en l'état, à la lumière des autres paragraphes. Alors, en fait, mon collègue a abordé la question du patrimoine culturel. Je ne suis pas certain si c'est le bon moment pour commencer à aborder le paragraphe 13 bis.
Du patrimoine. Ok, well, in this case.
Très bien. Dans ce cas-là, je m'exprimerai tout à l'heure lorsque l'on parlera du paragraphe 13 bis.
Tamam. Evet, şimdi...
À présent. Alors, amendement 41 et 42. Paragraphe 13 bis. Je propose de conserver le libellé en l'état, c'est ce que je suggère. Au sujet des amendements 37 à 40, nous conservons le texte en l'état. À présent, nous passons donc aux amendements suivants, paragraphe 13 bis. Monsieur Calvet-Chambon, vous avez la parole.
Oui, oui, donc c'est simplement effectivement pour tenir compte de l'actualité, c'est-à-dire. Et des menaces terroristes qui ont un impact sur le tourisme, on ne l'évoquerait pas. Je pense que ça pourrait nous être légitimement reproché. Donc il faut bien sûr évoquer la dimension de sécurité, des menaces sur, qui, terroristes qui donc ont des conséquences sur les activités, le développement. Et il faut donc insister bien sûr à chaque fois sur la nécessité de renforcer les mesures relatives à la sécurité des touristes, améliorer l'information des touristes, améliorer l'information des opérateurs touristiques, bien sûr, en lien avec l'ensemble des parties prenantes des pays concernés. Donc je pense qu'il faut évoquer cet aspect-là, conséquences du terrorisme sur les activités touristiques et donc conséquences économiques et sociales.
Evet, Belçikalı meslektaşım, buyurun.
Je pense que la proposition d'amendement de M. Hortefeux est tout à fait légitime, bien sûr. Et je peux y adhérer, pour autant qu'on puisse y intégrer un élément relatif à l'échange de renseignements, parce que je pense que c'est très bien de renforcer les dispositifs dans les pays de destination touristique, des dispositifs de sécurité, etc. Mais je pense aussi, et on le sait, que de pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme, c'est aussi de veiller à ce que les services spécialisés puissent échanger entre eux des renseignements Je crois que ce n'est pas M. Hortefeux qui me contredira. Donc, si on pouvait rajouter l'élément de l'échange de renseignements, je peux parfaitement adhérer à cette proposition d'amendement. Je ne sais pas ce qu'en pense M. Hortefeux.
Teşekkür ederim Sayın Ertuğrul.
Çok merci.
De vivre tant avec les services de renseignement algériens, marocains que tunisiens à certaines époques, donc je souscris totalement à cette remarque. Hein. Donc pas de problème pour qu'elle soit inclue dans l'amendement.
O zaman ilave edeceğimiz cümleyi.
Très bien. Monsieur Hortefeux, le secrétariat rédigera le texte approprié pour tenir compte de cet amendement. Monsieur Calvet-Chambon.
Je parle de l'amendement 40. Attendez, celui que je présente moi-même, qui est le 42. Le 42 pour introduire un nouveau paragraphe qui souligne l'importance fondamentale pour le tourisme. Pour moi, c'est beaucoup plus que ça, c'est vrai. Moi qui ai visité les merveilleuses ruines de Volubilis, ou de Kherasha, ou de Boularesia, ne parlons pas de la Turquie. Hein, depuis Priene jusqu'à toute l'Anatolie, le musée du Bardo, plus grand musée de mosaïque du monde, où rien n'est dispensable. Alors, pour moi, c'est plus. C'est vraiment un attentat contre l'humanité. Et le Parlement européen, récemment, a approuvé, je crois que c'était une question d'urgence, pour que ce soit traité, que cette dégradation du patrimoine culturel de l'humanité, comme ça s'est fait à Mossoul, et comme ça s'est fait au musée d'Alep aussi, que j'ai visité, qui avait des merveilles. Bon, mais au moins mettons-le quand on parle de tourisme. Il faut absolument criminaliser ces attentats contre notre histoire, celle de tous, et mettre les bouchées doubles pour empêcher la destruction, parce que ça, c'est irrécupérable. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait récupérer, mais ça, c'est irrécupérable. Alors, je défends simplement l'introduction de cet amendement pour une autre voie de protéger notre évolution d'humanité, notre art, et notre identité, si vous voulez, comme être humain, à travers la protection de tous les documents qui attirent aussi énormément le tourisme, dont moi.
Evet, çok teşekkür ediyorum.
Je vous remercie. Eh bien, mes chers collègues, ces deux amendements, les amendements 41 et 42, abordent des sujets importants et je tiens à remercier messieurs Hortefeux et Calvet-Chambon de les avoir soumis. Nous ajouterons donc vos idées, messieurs Hortefeux et Chambon. Alors, 13A et 13B, le secrétariat rédigera ces deux alinéas au paragraphe 13A A et B. Ils sont adoptés. Je vous remercie. Passons maintenant au paragraphe 14. Nous avons devant nous les amendements 43 et 44, ainsi que l'amendement 45, trois amendements au total, au sujet du paragraphe 14. Monsieur Hortefeux, vous avez la parole.
Oui, c'est précisé en deux temps, c'est ce paragraphe. D'abord, pour se réjouir des partenariats de mobilité qui ont été conclus entre l'Union européenne d'une part et le Maroc et la Tunisie d'autre part, afin de bien sûr permettre la facilitation, la circulation des personnes. Et en même temps, il faut promouvoir une politique des flux migratoires existants, avec la simplification des procédures d'octroi de visa. Mais la politique de libéralisation et de facilitation des visas, elles n'ont pas de sens si elles ne sont pas accompagnées d'accords de réadmission. C'est l'un et l'autre, ce n'est pas l'un sans l'autre. Et d'ailleurs, les pays que je viens de citer l'ont parfaitement compris. Et donc, cet amendement invite l'Union européenne et les autres pays membres de l'UPM à conclure des partenariats de mobilité qui soient similaires à ceux que je viens d'indiquer, qui auraient un impact très positif sur le développement touristique et tout ce qui va avec de la région. Donc c'est, un, se féliciter des partenariats de mobilité conclus avec le Maroc et la Tunisie essentiellement. Deux, dire que quand on signe des accords de facilitation des visas, il faut qu'il y ait des procédures de réadmission qui soient prévues. Et encourager les autres pays de l'Union européenne à signer des accords semblables afin de développer le tourisme régional. Voilà, en trois points donc.
Merci beaucoup, Monsieur Hortefeux. En ce qui concerne donc le paragraphe 14, y a-t-il quelqu'un qui désire intervenir? Oui, Begin. Alors, en fait, je pense que ce que notre collègue, Monsieur Hortefeux, a souligné, eh bien, je suis tout à fait d'accord. J'ai suggéré moi-même d'ajouter quelque chose parce que je vois encore l'importance du tourisme. Nous ne pouvons pas insister suffisamment sur l'importance du tourisme, mais je recommanderais la préparation d'une charte pour le tourisme durable qui pourrait être un premier pas vers quelque chose qui pourrait se faire de manière plus générale à l'avenir. Peut-être on pourrait travailler là-dessus au cours des réunions à venir. Cela pourrait faire l'objet de discussions spécifiques. C'est un problème auquel nous faisons tous face, la durabilité du tourisme. Merci. Alors donc, en ce qui concerne donc les suggestions de M. Hortefeux, de Mme Begin, ainsi que de notre autre collègue, eh bien, j'aimerais en savoir plus. Y a-t-il d'autres propositions concrètes pour ces amendements? Mme Begin. Un microphone. Alors, oui, encore une fois, j'aimerais qu'on ajoute quelque chose. J'aimerais peut-être remettre cela à la prochaine réunion. On pourrait avoir une préparer une discussion concernant une éventuelle charte du tourisme que l'on pourrait adopter. Merci. Oui, nous pouvons effectivement discuter de cela lors de notre prochaine réunion. Il nous reste 10 minutes. On doit être rapide. Et j'aimerais donner la parole au Maroc.
L'octroi des visas n'est pas seulement spécifique au tourisme. Parce qu'il y a des visas pour les étudiants, il y a des visas pour le regroupement familial, pour les investissements dont on a parlé tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si on va lier strictement le visa et le tourisme. Ou on le reporte pour la prochaine réunion et voir un peu élargir maintenant. Parce que là, sinon, il faut spécifier le visa pour tourisme.
Evet, vize konusu.
Alors, le sujet du visa est examiné par la commission. Vous avez raison, Le visa est un concept assez général. Il existe des visas de tourisme et autres. Et nous allons en discuter lors d'une réunion subséquente. Alors, pour passer donc au paragraphe 14, pour adopter donc les amendements apportés au paragraphe 14, peut-on les accepter? Oui. Donc, le paragraphe 14 est adopté avec les amendements proposés par M. Hortefeux. Et nous allons maintenant discuter de la proposition de Mme Béguin concernant le paragraphe 15. Proposition apportée par M. Chambon ainsi que par M. Hortefeux. Amendement 46. Monsieur Hortefeux, vous avez la parole. Paragraphe 15.
En fait, plaide pour une politique commune des prix. Bon, c'est très sympathique, c'est très intéressant, mais compte tenu de la très grande diversité des économies des pays membres de l'UPM, en réalité, c'est impossible. Alors, c'est pas parce que c'est impossible qu'il ne faut pas y réfléchir, mais c'est totalement impossible aujourd'hui. Donc, l'amendement que je dépose me semble, pardon, plus réaliste. C'est-à-dire qu'on propose des efforts afin de limiter les très fortes distorsions qui existent, qui nuisent à l'activité, qui nuisent au tourisme de certains pays. Mais je pense qu'il faut pas, dans des textes, évoquer des rêves. Il faut essayer d'évoquer des aspirations et qu'ils deviennent des réalités. Donc là, la politique commune des prix, ça me semble pas très crédible de l'évoquer aujourd'hui par écrit en disant que ça peut se faire comme ça du jour au lendemain. C'est un peu ça l'idée. Donc soyons attentifs à ne pas d'évoquer de trop grandes ambitions qui ne resteraient que des rêves. Voilà. En français, on dit des chimères. Je ne sais pas comment les traductrices vont le faire, mais enfin, les traducteurs, mais enfin, en tout cas, c'est des chimères. Voilà.
Merci. Alors, en espagnol, quimeras. Oui, ça ressemble effectivement au français.
Je n'ai pas d'ailleurs très bien compris le texte original. Politique commune des prix, en quoi, de quoi? Et on veut donc installer des barrières à la libre concurrence. Moi, je vais plus loin que M. Hortefeux. Moi, ça ne me semble pas désirable du tout. Je pense que les pays ont leurs atouts, les pays doivent respecter des lois, il doit y avoir des lois qui protègent l'environnement et tout ça, chacun avec sa spécificité, chacun aussi dans son moment du cycle historique, parce que les choses ne s'inventent pas, et à partir de là, les prix sont le résultat d'une politique de concurrence. Alors, j'ai commencé par dire que j'allais plus loin, après que je ne pense pas désirable, et j'en arrive au troisième mot, mais c'est que ça me semble dangereux. Qu'est-ce qu'on va faire? Harmoniser les prix de quoi au niveau de toute la Méditerranée? C'est pas seulement que c'est impossible, c'est que si ça arrivait à être possible, dans quel genre de société nous entrerions? Donc moi, j'allais demander la suppression au début, et j'ai des assistants beaucoup plus calmes et tranquilles que moi qui ont proposé un élément alternatif, mais qui donc mon amendement 47. Mais l'idéal serait peut-être la simple suppression de toute référence au prix. Après, qu'il y ait des accords, des consultations, des agréments, du benchmarking, tout ça, tout ce que vous voulez. Mais fixer précisément, comme noyau, la politique de prix commun, mais ça va vraiment très loin. Hein, à mon avis, trop, trop loin.
Merci. Vous avez la parole.
L'idée de Monsieur le ministre sur le fait que... moi, d'ailleurs, de prime abord, je n'avais pas compris l'essence même de cet amendement. Pourquoi? Quel est l'intérêt de fixer une politique de prix commune? Ensuite, moi, je crois que c'est technique, la fixation des prix, parce qu'il y a plusieurs variables qui entrent en jeu. Alors, on parle de quoi? Le prix de quoi, premièrement? En deuxième lieu... dans les pays de l'UPM, on est des pays, c'est vrai, complémentaires, mais on est aussi différents. On ne peut pas instaurer le même prix pour différentes choses. Techniquement, je crois que ça va être très difficile. Et même l'effort de M. Hortefeux pour intégrer une très forte distorsion, même très forte, c'est dans quelle mesure? C'est 20, 30, même ici, ça va poser problème. Moi, je crois que je vais dans le sens de dire que est-ce qu'on n'a pas intérêt à retirer cette partie de ce projet de recommandation? Et merci.
Merci pour cette intervention. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. En fait, je suis tout à fait d'accord avec ma collègue, ce qu'elle vient de mentionner. Cette recommandation ni l'amendement n'ont pas trop de logique. En fait, j'aimerais peut-être supprimer, je propose peut-être d'éventuellement supprimer ce paragraphe et le substituer par une autre recommandation. Par exemple, ceux qui veulent promouvoir le tourisme dans la région méditerranéenne, on pourrait donc reformuler ce paragraphe. Et je pense, je ne suis pas tout à fait convaincue de ce fait, mais je pense qu'on pourrait peut-être soumettre une recommandation qui appelle à... Par exemple, on pourrait désigner la journée méditerranéenne du tourisme, où on pourrait, par exemple, avoir des réunions parmi les différentes institutions. On pourrait débattre sur divers sujets entre différents pays de la Méditerranée afin de parler du sujet du tourisme. Et toutes les recommandations concernant le tourisme, parmi toutes ces recommandations, il me semble que une grande partie de ce qu'on lit ne sont pas des recommandations, mais plutôt des propositions.
Ouvrir un chantier de travail commun. هذه الفقرات المتعلقة بقطاع السياحة جزء كبير منها نقرأه في أي كتاب.
Alors, vous, tout type de recommandations, ce sont, en fait, qu'est-ce qui est recommandé concrètement ici? Nous devons recommander quelque chose de concret, donc je propose de supprimer cette recommandation et de le substituer par une autre, peut-être en disant qu'il y a la commission économique appelle à la promotion de la collaboration entre les institutions de la région méditerranéenne afin de créer, de désigner une journée méditerranéenne pour le tourisme. Merci. Alors, Monsieur le Président, je suis d'accord avec l'élimination de ce paragraphe. Cependant, je pense que cette question doit être discutée lors d'une session ultérieure parce que le fait de parler de cet échange, bon, toutes les questions ont une influence et il existe différents systèmes administratifs, par exemple la sécurité sociale, le travail, la santé, les normes concernant la santé sont différentes dans chaque pays. Donc il y a plusieurs aspects dont il faut tenir compte. Ces recommandations sont très importantes, mais nous devons peut-être les discuter ultérieurement parce que si nous voulons créer une zone d'échange, de libre-échange, il faut qu'il y ait une homogénéité en termes de réglementation afin de pouvoir nous assurer que nous avons les mêmes normes en ce qui concerne la santé et la sécurité, par exemple. Alors, malheureusement, nous n'avons plus le temps.
Il y a beaucoup de volets qui ne sont pas apparus dans ce volet tourisme. Le tourisme écologique, certes, on a essayé d'en parler, mais comment rendre le tourisme plus humain et qui respecte les droits de l'homme, et particulièrement le tourisme sexuel, la pédophilie et tout ça. Il faut protéger les enfants et la population des pays hôtes. C'est très important. Donc, je serais pour l'idée de reprendre cette dimension beaucoup plus large du tourisme, parce que le tourisme, c'est vrai, c'est important, ça crée des emplois, etc. Mais ça crée aussi des problèmes, d'autant plus que maintenant, on assiste à des packages de tourisme, de chirurgie esthétique, de chirurgie, etc., etc. Donc, je pense que ça mérite d'être rediscuté une autre fois. Merci.
Evet, son söz.
Merci pour votre intervention. Et donc, dernière intervention pour nos collègues de Roumanie.
Le prix, c'est très, très important. On ne doit pas éliminer totalement les références au prix. Parce que toujours, c'est une machine. Un produit, sans prix, on ne fait pas rien. Ce n'est pas le tourisme gratuit, on doit faire avec les prix. Je propose de maintenir ici, mais pas de dire demande au pays, propos aux membres pour adopter des mesures visant les prix avant d'éliminer. Pas une politique. Politique, c'était complexe. C'est très différent, mais on doit rester quelques mots sur les prix. C'est une question. La deuxième, parce que je suis ici et je vois comité en économique and financial and education. Malheureusement, dans ces déclarations, on ne trouve que seulement une référence à l'éducation. C'est la propose 7 visant la Syrie. Je crois qu'on doit introduire un petit amendement, un petit propos. On doit développer l'éducation, la formation. Qu'est-ce que vous voulez, l'enseignement, pour créer des conditions pour stabiliser les migrants et pour ça, différentes choses. Et est-ce que ce n'est pas possible maintenant, pour l'avenir, on doit introduire l'éducation, l'enseignement, malgré, parce qu'ici, seulement pour la Syrie. Merci beaucoup.
Ben de çok teşekkür ediyorum, değerli.
Je vous remercie, chers collègues. Je propose donc à la suite de notre discussion de supprimer le paragraphe 15, dont nous débattrons par la suite plus en détail. Pour l'heure, le paragraphe 15 est supprimé. Nous en sommes tous d'accord. Parfait. Nous en rediscuterons lors de nos prochaines réunions. En ce qui concerne les amendements 48 et 49, eh bien, nous en avons discuté, nous avons supprimé tout le paragraphe, donc ce n'est pas la peine d'y revenir. Et il y a à présent encore deux points à traiter à l'ordre du jour. Je sais que nous n'avons plus beaucoup de temps, mais la délégation marocaine souhaitait ajouter un paragraphe que je voudrais vous lire. En ce qui concerne les droits de l'homme, les valeurs humaines. La Commission félicite le Maroc de sa politique en ce qui concerne l'immigration et le patronage de Mohamed VI, qui a présenté de nouvelles résolutions visant à résoudre les problèmes d'immigration. Je voulais soumettre cette résolution à votre, cette recommandation plus exactement à votre approbation. Vous avez la parole très brièvement. Nous allons lever la séance dans quelques instants. Je vous remercie. Je souhaiterais ajouter une autre recommandation, Monsieur le Président, qui apporterait une aide à tous les pays méditerranéens. Il Il s'agit de soutenir les investissements. Nous avons parlé de l'importance des investissements et du tourisme. Nous souhaiterions donc proposer une recommandation visant à la création d'un fonds qui permettrait de soutenir les investissements dans les pays méditerranéens, en particulier les pays qui jouissent de stabilité et de sécurité, dans les investissements où les investissements sont sûrs, où l'environnement est approprié pour créer des opportunités d'emploi et éradiquer le chômage, par exemple les énergies durables, des programmes de ce type. En Jordanie, nous avons fortement besoin de tels projets. Si vous en êtes d'accord, je peux vous proposer une version anglaise de cette recommandation. Merci. Très bien, nous en discuterons donc lors de notre prochaine réunion. À présent, je voudrais donner la parole à notre collègue italienne. Merci. Je voudrais apporter un complément à ce que je disais tout à l'heure. Nous voulions ajouter un paragraphe afin de féliciter les pays qui sont impliqués dans la résolution des crises humanitaires. Il s'agit donc d'adopter une approche globale en matière d'immigration partagée par tous les pays méditerranéens dans le cadre d'orientation clairement établi par le Parlement européen à la demande des Nations unies. En fait, nous sommes confrontés à des changements géopolitiques et l'on pourrait ajouter donc un paragraphe d'ordre politique à la suite du paragraphe 15 établissant que les décisions prises au cours de ces derniers jours, que nous les soutenons et que ces décisions donc ont été prises par l'Union européenne au cours de ces derniers jours et semaines et que nous soutenons les efforts du président M. Juncker et du Parlement européen afin d'éviter les tragédies auxquelles nous avons assisté au cours de ces derniers jours et d'éviter en particulier qu'elles ne se reproduisent. Très bien. Nous devrons donc soumettre une version en anglais de ce texte à l'Assemblée générale demain matin. Donc je voudrais relire la proposition de la délégation marocaine. Nous souhaiterions apporter une fin à la politique d'installation d'Israël en violation avec le droit international, etc., etc. Éviter l'escalade des tensions qui mènent à l'instabilité régionale et au conflit. Donc, cette proposition doit être incluse. Mais nous ne sommes pas une commission qui s'occupe de politique. Nous nous occupons d'affaires économiques. Nous n'avons plus le temps d'en discuter. Il s'agit d'un sujet extrêmement important, mais nous sommes encore une fois une commission économique. Cela dit, nous devons approuver ce texte. Nous pourrons ajouter un point à l'ordre du jour pour traiter de ce sujet lors de notre prochaine réunion. Alors, je suis désolée, je ne peux plus vous donner la parole. Nous n'avons plus de temps.
Un grand problème de traduction. Quand on compare le texte en français, en arabe et en anglais, il y a plusieurs idées qui échappent. Donc, je pense que le secrétariat est amené à faire un peu plus d'efforts pour la traduction, tout en les remerciant, parce que nous savons qu'ils font un effort colossal. Mais au cas où, faites appel, Monsieur le Président, à des Evet. Des traducteurs
ben de teşekkür ederim. Buyurun.
Parce que ça vide l'esprit du texte.
Peki, teşekkür ederim. Buyurun.
Très bien, je vous remercie. Dernière intervention. Je tiens à vous remercier de votre compréhension et remercier la délégation marocaine de sa proposition de recommandation. Il est impossible de ne pas adopter cette recommandation. Le fait que nous soyons une commission des affaires économiques n'en est pas une raison. Nous parlons dans notre texte des événements en Syrie, en Libye, etc., qui représentent des menaces envers la sécurité et la stabilité de la région. Afin de pouvoir adopter une attitude juste et correcte, nous devrions ajouter ce texte. Mes collègues sont en faveur de cette recommandation et nous le sommes également. Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un est contre cette proposition? Eh bien, si ce n'est pas le cas, nous pouvons ajouter ce texte et nous le soumettrons à l'Assemblée générale. Je vous remercie, mes chers collègues. Le secrétariat va donc préparer un libellé, un texte, et nous nous retrouverons demain lors de l'Assemblée générale. Mais auparavant, je tiens à vous remercier tous de vos contributions. Nous avons rencontré quelques petits problèmes et nous nous en excusons. Je tiens néanmoins à vous remercier de vos précieuses contributions. Notre prochaine réunion se tiendra au mois d'octobre ou de novembre en Turquie. Vous savez que nous avons organisé des réunions dans de nombreux pays différents. Si certains de nos collègues souhaitent donc nous inviter, eh bien, nous accepterons avec plaisir. Si une telle proposition nous était faite, nous serions heureux d'organiser la prochaine réunion de notre commission dans le pays qui souhaiterait nous accueillir. Ceci ne peut qu'améliorer la communication entre nous tous. Je vous demanderai donc de soumettre vos propositions par écrit au secrétariat, tenant compte du fait que nous avons l'intention de nous réunir au mois d'octobre ou de novembre. Nous avons déjà établi les thèmes de ces prochaines discussions. Si cependant vous souhaitez rajouter des thèmes, des sujets dont vous souhaiteriez débattre lors des années à venir, n'hésitez pas à en informer le secrétariat. Et lors de nos réunions de bureau, nous définirons ces sujets et nous travaillerons sur les sujets choisis sur la base de vos propositions. N'hésitez donc pas à contacter le secrétariat afin de soumettre vos idées. Alors, nous avons différents temps impartis pour les prises de parole. Vous pourrez prendre la parole demain lors de la plénière, si vous le souhaitez, en accord avec ces plages de temps imparties aux différentes institutions. Je tiens à tous, encore une fois, à remercier le Parlement portugais de sa chaleureuse hospitalité. Le président a la gentillesse de remercier les traducteurs et les interprètes qui ont contribué à la réussite de notre réunion. Merci à vous, Monsieur le Président. Nous soumettrons ce texte lors de la plénière. Merci encore de votre participation et de votre aide.